Question nationale, Elisabeth Borne.
Merci beaucoup Cécile Mérieux pour les informations. On vous retrouve à 8h. Mais d'abord le grand témoin, Louis Dufresne, vous recevez ce matin Anne Coffinier, fondatrice de la Fondation Kairos pour l'innovation éducative.
On a coutume en France d'opposer égalité et liberté, l'école étant, au moins depuis la Troisième République, le moyen que l'État a trouvé pour instruire le plus grand nombre qui en avait bien besoin, et aussi rendre employable une main-d'œuvre paysanne qui allait passer à l'industrie et devoir innover. Ce système a fonctionné jusque dans les années 60, grosso modo. Puis il a commencé à se gripper, à se figer, devenant lui-même une source d'inégalité entre ceux qui ne comptent que sur lui et ceux les mieux informés et les plus aisés qui se débrouillent autrement, qui vont dans le privé pour faire court. La question pose un colloque organisé vendredi par la Fondation Kairos Institut de France en partenariat avec la Revue Politique et Parlementaire, que l'on connaît bien ici avec Arnaud Benedetti, et de savoir si on peut accéder à l'égalité par la liberté et non contre la liberté, comme on a coutume de le penser souvent en France, et comme le laisse à penser peut-être un certain raidissement coercitif visant l'enseignement privé en ce moment. Un rapport de la Cour des comptes publié hier dresse un constat sévère d'échec de la politique publique d'enseignement primaire en France, qui ajoute au contexte que nous connaissons, et appelle à repenser le modèle actuel de l'école, ce qui sera peut-être fait au cours de ce colloque, organisé donc par la Fondation Kairos Institut de France, dont on peut rappeler qu'elle développe des projets éducatifs innovants, en particulier les écoles indépendantes qui transmettent le goût de la culture classique. Bonjour Anne Coffinier.
Bonjour Louis Dufresne.
Ce rapport de la Cour des comptes, comment l'appréhendez-vous ?
Une fois de plus, la Cour des comptes a un rôle de lanceur d'alerte qui est appréciable. Pour autant, c'est quand même perturbant de se dire qu'il n'y a pas d'autre organisation en France pour faire un travail critique de l'éducation nationale. Il y a la DEP qui produit des statistiques, il y a l'inspection générale, mais ces deux structures sont complètement soumises au ministère et sont tout à fait incapables de produire une pensée critique. Donc ça me fait souci, parce que finalement, on a une approche à travers cette critique de la Cour des comptes qui est parfaitement comptable. Qu'est-ce qu'elle propose essentiellement, même si son rapport est très dispersé ? C'est par exemple de faire des regroupements pédagogiques internationaux, c'est-à-dire en fait de vider la campagne de leurs petites écoles pour faire quelques pôles, donc en gros accélérer la désertification rurale. Et selon quelle logique ? La logique d'un égalitarisme en se disant chaque classe doit avoir 20 élèves. Mais 20 élèves en ruralité, c'est inatteignable. Et quand on pense que dans les banlieues sensibles, les fameux REP+, en réalité, ils ont un encadrement beaucoup plus fort, on se dit qu'il y a une inégalité qui s'est instaurée, et qu'en définitive, d'un côté, on a un discours très statistique, comptable, et d'un autre côté, on a une préférence politique affichée quand même pour l'accompagnement des enfants de banlieue, et qui correspond quand même à un oubli parfait des enfants de la ruralité. Donc, ce que je voulais simplement dire, c'est que, bien sûr, c'est important, cette Cour des comptes, parce qu'en général, elle a un verbe assez, clair, de ne pas trop dans la périphrase absconce, donc ça, c'est bien. Mais par contre, c'est quand même malheureux d'avoir un point d'entrée dans les sujets éducatifs purement comptables.
Y a-t-il un moyen d'innover ?
Ah, évidemment. Et d'ailleurs, il n'aborde pas du tout ces sujets, et pour cause. Il y a un moyen d'innover qui s'appelle liberté et autonomie. La vraie cellule à partir de laquelle on peut faire des choses, c'est l'école et la famille, bien sûr. Si on pense tout à partir du haut, on essaie de faire des réformes systémiques comme on l'essaie de faire depuis 40 ans, on voit bien qu'on n'y arrive pas. Donc tant qu'on n'aura pas fait ce choix-là de rendre le pouvoir décisionnel au niveau des écoles, on arrivera, à mon avis, à pas grand-chose.
Mais dans l'ensemble, on assiste aujourd'hui en France plutôt à un mouvement de recentralisation, que ce soit au niveau des communes, au niveau des communes également. Les maires se plaignent beaucoup de la recentralisation. On ne va pas dans le mouvement de l'autonomie.
On va surtout dans le mouvement, très français malheureusement, de l'empilement infini de structures supposées compétentes et donc d'un accroissement de la charge bureaucratique, technocratique, administrative énorme, et du coup qui va avec. En fait, il y a besoin d'un choc de simplification, tout le monde le sait, mais il n'y a rien de plus dur en France, puisque dès qu'il y a un problème, on crée une loi, on crée un organisme, on crée une agence indépendante. Donc, comme c'est comme ça qu'on règle tous les problèmes en France, forcément, je ne vois pas tellement comment on peut simplifier.
Quand vous dites, Anne Coffinier, de faire redescendre la chose au niveau des familles et du local, de l'autonomie, qu'est-ce que ça veut dire pour les professeurs ? Ça veut dire qu'ils sont rémunérés différemment ? Ou comment
Alors,
voyez-vous les choses ?
Ce qui est très important, c'est que les professeurs puissent choisir leur établissement. Aujourd'hui, dans le public, ce n'est pas le cas. C'est un système de points. Et typiquement, les professeurs qui sont les plus juniors vont se retrouver, si possible, à l'autre bout de la terre, dans des zones très compliquées où leur manque d'expérience fait qu'ils sont condamnés à l'échec. Et c'est eux, souvent, qui s'occupent des publics les plus difficiles, notamment en banlieue. Et lorsqu'ils prennent des points, ils fuient ces zones-là pour aller dans des zones plus faciles, entre guillemets. Donc tout ce système-là, à la fois, est contraire à l'intention des professeurs et donc joue contre le recrutement. Vous savez qu'il y a une énorme crise du recrutement enseignant. Mais en plus, ça joue contre les élèves. Donc il est temps de laisser les professeurs choisir leur affectation. Beaucoup de gens disent « Ah oui, mais vous comprenez, si on leur laisse le choix, jamais ils iront dans les quartiers difficiles et dans les établissements difficiles. » Pas du tout. C'est un métier de vocation. De toute manière, vous avez des gens qui s'installent un peu partout et que je sache, ce n'est pas des zones vides. Et ensuite, outre l'aspect vocation, il y a quand même moyen aussi de donner plus de financement pour les zones les plus dures. Ce n'est pas illégitime de mieux payer un professeur qui a affaire à des conditions de travail et des publics qui nécessitent plus d'investissement, plus de risques, plus d'attention. Donc je ne vois pas tellement ce type de problème-là. Je pense qu'en France, malheureusement, ça va beaucoup changer depuis Tocqueville, on est quand même assez réticent face à la liberté des êtres. On préfère toujours tout régimenter, tout décider à coup de grandes lois cadres qui veulent faire marcher tout le monde au même pas. Mais on a un besoin de diversification cruelle en France.
Est-ce que la diversification, Anne Coffinier, ne va pas contribuer à l'éclatement non plus du pays, à la communautarisation du pays? C'est le risque qu'entrevoient aussi les autorités.
Non, d'abord, vous pouvez tout à fait faire une diversification même au sein de l'école publique, ce qu'on ne fait pas. L'école publique en France, à part un petit réseau, très bon d'ailleurs, d'écoles rurales, qui sont les maisons familiales et rurales, donc qui dépendent du ministère de l'Agriculture, un petit réseau de lycées militaires qui dépendent du ministère de la Défense et le réseau, bien sûr, des établissements français à l'étranger. Sinon, tous les autres établissements sont sous la coupe d'Éducation nationale sur le même modèle. Ce modèle, en fait, en étant unique, il conduit en fait à une catastrophe. Il est indispensable de s'adapter au terrain. Vous ne pouvez pas faire école de la même manière dans une petite commune rurale et dans une énorme ville avec des problématiques de population allophone, de jeunes professeurs qui viennent d'arriver et qui souhaitent repartir. Ça n'a rien à voir. Donc en fait, rien qu'en diversifiant au sein de l'école publique, on peut déjà faire beaucoup de choses. Et puis, il ne faut pas avoir peur du choix. Il ne faut pas avoir peur de la liberté. Ce sont des choses qui s'encadrent. On a peur de quoi? Que les islamistes s'emparent de l'école libre pour convertir la totalité du peuple français à l'islam ou le soumettre? Si on a peur de ça, il faut le traiter au niveau où ça se pose, c'est-à-dire un niveau politique. Qu'est-ce qui est acceptable dans l'islam, dans sa dimension politique, et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et comment on régit ça?
Le rapport, précisément, un autre rapport sur les frères musulmans et la manière dont ils s'infiltrent et organisent la structuration de l'organisation par l'école en particulier, oui, et par les services qu'ils rendent, ça, vous étiez déjà informé de cette question?
Oui, j'attendais avec beaucoup d'impatience le rapport Courtade-Gouillette, qui est un rapport qui est très important parce que pour la première fois, on analyse au point de vue administratif, parce que ça a été fait au niveau académique, notamment avec le travail de Florence Bergeau-Blacker, qui a vraiment fait ça très très bien, et puis même Gilles Kepel aussi avant. Donc pour la première fois, on analyse la réalité des manières de faire, notamment fréristes, c'est-à-dire des frères musulmans. Et toute la difficulté du frérisme et de ces manières de faire en France, c'est que ça fonctionne par nébuleuse, donc il y a très peu d'institutions qui sont officiellement rattachées aux frères musulmans. Vous ne pouvez pas dire le Hamas, par exemple, c'est la branche palestinienne des frères musulmans. C'est clair, c'est net. En France, vous avez du mal à dire que l'UOIF, devenu musulman de France, est officiellement la branche des frères musulmans en France. De facto, ça l'est. Sauf que juridiquement, c'est difficile à prouver. Et pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce que toute la pensée frériste, elle est structurée sur ça, ce type d'attitude. C'est-à-dire, c'est avant tout une pensée, juridique. Cette pensée juridique, elle réfléchit à la manière dont elle va pouvoir faire un entrisme, notamment démocratique et institutionnel, en utilisant les manières de fonctionner de l'État dans lequel ça se déploie. Donc, ils connaissent parfaitement la manière dont fonctionne la jurisprudence administrative et constitutionnelle. Ils savent très bien de la manière dont fonctionnent aussi les pouvoirs publics. Et à partir de là, ils développent une stratégie qui est une stratégie molle. Donc, quand vous discutez avec, par exemple, un responsable d'un établissement rattachée à la FNEM, qui est le réseau lié aux frères musulmans en France, d'écoles sous contrat, essentiellement, mais aussi hors contrat. Ils vous disent toujours « Ah, mais non, mais moi, je ne fais plus partie des frères musulmans » ou « Je ne fais pas partie des frères musulmans » ou « J'ai été proche, mais je n'en suis plus ». En fait, c'est incroyable, les frères musulmans.
Ils brouillent les pistes.
C'est toujours des gens qui n'en sont plus. Et même le petit-fils, quand même, de Hassan El-Banna, le fondateur en 1928 des frères musulmans, donc qui n'est d'autre que Tariq Ramadan, vous explique que pas du tout, il n'en est pas.
Donc, en fait, vous estimez que cette attitude-là, est-ce que ça se retourne aussi contre un autre type d'enseignement privé ou d'école sous contrat ou hors contrat, qu'on l'on pourrait suspecter d'avoir une attitude comparable à celle des frères musulmans?
Ça se retourne pour ceux qui veulent se servir de cet argument pour lutter contre l'école catholique. Parce que il y a ceux qui souhaitent sincèrement lutter contre une emprise islamiste, et il y a ceux qui utilisent cette peur-là pour, normaliser, absorber l'école catholique. Vous savez qu'en 1984, il y a eu de grandes manifestations pour lutter contre le fameux service public unique que voulait mettre en place donc Mitterrand et son ministre Savary. À l'époque, on a réussi à préserver cette autonomie et cette liberté scolaire avec un réseau complètement indépendant et des libertés fortes, dans l'esprit tout à fait de la loi Debré, hein, qui voulait vraiment des libertés fortes, un fameux caractère propre. Et maintenant, la situation, elle est celle d'une digestion progressive de l'école catholique sous contrat, en se servant d'un certain nombre de prétextes, à commencer par « Ah, mais vous ne voulez quand même pas faire le lit du communautarisme islamiste ». Et il serait temps quand même de réaffirmer pourquoi il y a des écoles catholiques, qu'est-ce qu'elles mettent en avant, sur quel point elles fonctionnent, et en quoi elles n'ont rien à voir avec des écoles islamistes.
Anne Coffinier, la Fondation Kairos Institut de France, vous avez bonne relation avec l'enseignement catholique?
Ah oui, tout à fait. Oui, bah écoutez...
Ils sont invités à ce colloque, enfin des représentants?
Oui, tout à fait. Donc dans le cadre du colloque, en fait, l'objectif, c'est pas tellement de penser hors contrat, sous contrat, franchement, c'est pas l'objet. L'objet, c'est de réfléchir, en fait, à cette tension, comme vous le disiez en introduction, entre égalité et liberté, puisqu'il y a une petite musique qui s'est installée, qui tente à dire, ah ben vous comprenez, s'il n'y avait pas d'école privée, donc s'il n'y avait pas de réseau catholique par exemple, il y aurait beaucoup plus d'égalité des chances en France, il y aurait beaucoup moins de discrimination, le système serait plus juste, et finalement, bah, c'est à cause de l'école privée que l'école publique a tant de problèmes. Bon, c'est la stratégie du bouc émissaire, c'est gentil. Enfin, ça correspond à rien du tout. Et donc, moi, mon objectif, c'est de montrer, en fait, que l'égalité des chances, la méritocratie, la justice sociale et scolaire, elle passe par le fait d'avoir, justement, une variété de réseaux, une variété d'écoles, et qu'en fait, contrairement à ce qu'on veut bien dire en ce moment, parce que ça n'a pas toujours été le cas, eh bien, en fait, l'existence d'une école privée sert, en fait, la chance que peut avoir chacun de réussir ses études.
Colloque qui se tient donc vendredi prochain à la Fondation Sino del Duca à l'Institut de France, 10 rue Alfred de Vigny à Paris, dans le 8e, avec Xavier Darcos et en partenariat avec la revue Politique et Parlementaire. Un mot sur François Bayrou, il est Premier ministre, il est sensible aux problématiques éducatives, lui-même a été ministre de l'Éducation nationale, vous lui en avez parlé?
Alors je ne sais pas si... il est avant tout Premier ministre dans une situation extraordinairement compliquée. Et en plus, il a à gérer l'affaire Betaram. Donc, je pense qu'il est surtout accaparé par ce type de considération. Ce que je pense surtout, c'est que...
Vous le soutenez dans cette affaire?
Bon, je ne vais pas le soutenir. Ce que je vois, c'est que la commission d'enquête se comporte de manière inacceptable. Elle était chargée d'une mission précise qui était de repenser la question du contrôle et de la prévention des violences sexuelles et physiques et morales. Dans le public, dans le privé sous contrat et hors contrat. C'est ça, son périmètre d'action. Et en réalité, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une charge permanente contre l'école catholique sous contrat et contre le Premier ministre. Donc, je trouve qu'elle est sortie complètement de sa mission légitime. Et donc, elle perd toute forme de crédibilité. Moi-même, j'ai demandé à être auditionnée pour la question des écoles hors contrat en particulier, ça a pu être possible. Ils m'ont demandé de faire une contribution écrite que je vais remettre cette semaine. Et je trouve inadmissible qu'on ne s'occupe pas de la protection des enfants dans les écoles hors contrat. Je m'explique juste en deux secondes. Quand un professeur ou un directeur plutôt recrute des professeurs ou des bénévoles ou du personnel dans une école, il n'a pas la possibilité de faire vérifier par le ministère de la Justice s'ils ont un passé, je dirais même un passif, en matière de pédocriminalité.
On ne peut pas demander le casier judiciaire.
Ce n'est pas une question de casier judiciaire. Vous n'avez pas ça dans un casier judiciaire. En fait, il faut pouvoir accéder aux fichiers FIJAI et FIJATS. Donc, nous, on a des enjeux sur le terrorisme et sur tout ce qui est agression sexuelle. Et on ne peut pas le faire.
Et pourquoi ?
Tout simplement parce qu'ils se moquent des enfants du hors-contrat. Donc, en fait, moi, ça fait ministre après ministre que je leur écris et que je leur dis, il n'y a pas de raison qu'il y ait une discrimination dans la sécurité physique des enfants sous prétexte qu'ils sont dans une école hors contrat ou sous contrat ou public. C'est inacceptable. Donc, c'est là-dessus que je vais faire ma contribution et proposer une solution qui repose surtout en dehors du fait de pouvoir à l'embauche vérifier le passé judiciaire des personnes. Mais en dehors de ce point, ma contribution posera surtout sur le fait qu'il faut une culture du signalement avant tout. Il faut savoir repérer les signaux faibles, il faut développer une culture du courage du signalement avec des procédures simples, ce qui n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, personne ne comprend ce qu'il faut faire. Et puis il faut qu'ensuite on soit formé massivement à détecter les signaux faibles, savoir libérer la parole, ce qui n'est évidemment pas du tout facile, et ensuite faire des signalements propres. Pour moi, c'est vraiment là-dessus que ça doit porter, beaucoup plus que sur des contrôles qu'ils n'arriveront jamais à faire parce qu'ils n'ont pas la ressource humaine.
Et que les contrôles portent sur des questions académiques, généralement, et pas sur des questions dans un internat, par exemple, c'est pas pendant les cours que les choses se produisent, enfin, que les choses délictueuses produisent.
Alors, il y a toutes sortes de contrôles, justement. C'est un des problèmes. Il y a des contrôles sur les aspects académiques, il y a la loi Debré, mais il y a aussi des contrôles qui sont beaucoup plus liés, à la sécurité de l'enfant, au bien de l'enfant. Donc, vous voyez, il y a tous ces contrôles-là, théoriquement. Là, ils font un effort, en ce moment, parce qu'ils n'ont jamais vraiment respecté les écoles sous contrat, ça, c'est une vérité. Ils font un effort, en ce moment, mais ils vont pas pouvoir le faire longtemps, parce que pendant qu'ils inspectent ces écoles-là, ils n'inspectent pas les autres. Donc on a un problème de ressources humaines, et la solution c'est le signalement.
Merci beaucoup Anne Coffinier, présidente de la Fondation, présidente et fondatrice de la Fondation Kairos pour l'innovation éducative Institut de France. Bonne journée.
Merci.
Et merci à vous Louis Dauphren, on vous retrouve à 9h10, le débat du jour.